Évangile de Jean, chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Il a guéri un homme le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas dans un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Voilà un passage un petit peu difficile dans tout cet échange, un échange tendu entre Jésus et les Juifs religieux. Pourquoi ? Parce que Jésus vient de guérir un homme malade depuis 38 ans, le jour du sabbat. Et c'est déconcertant, mais les Juifs sont bloqués avec ça, et pour eux, ils n'acceptent pas que Jésus puisse guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et ils pensent avoir là un argument pour prouver que Jésus ne respecte pas la loi divine. Mais en plus, Jésus va plus loin, et ça va avoir l'effet d'une bombe. Jésus, il affirme être le Fils de Dieu. Et il se présente comme un avec Dieu. Eux, ils vont bien comprendre. Fils de Dieu, pour eux, ça ne veut pas dire une création, mais l'égal de Dieu. Jésus déclare sa divinité, et là, on comprend que ça a l'effet d'une bombe pour tous ces religieux qui sont là. Et dans l'échange qui suit, Jésus affirme des choses extrêmement fortes, des choses qui vont les faire changer de couleur. Jésus affirme être un avec le Père, et il affirme qu'il a une unité d'action. Ce que le Père fait, il le fait. Jésus affirme avoir une unité d'amour. Le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. Jésus affirme avoir une unité de puissance avec le Père. Et il dit, ce que le Père fait, je le fais. Le Père a le pouvoir de ressusciter les morts, moi je le fais. Dieu seul a ce pouvoir. Mettez-vous à la place des personnes qui entendent ça. Cet homme dit qu'il a le pouvoir de donner la vie. C'est très fort. Et on comprend la réaction et la mayonnaise qu'est en train de prendre à l'intérieur et cette volonté de rejeter Jésus. Jésus affirme une unité d'honneur qui lui est dit. Il dit, comme vous honorez le Père, il faut m'honorer. C'est ce que Jésus dit. Soit un fou va parler comme ça, soit Dieu peut parler comme ça. Il n'y a pas de milieu. Et puis Jésus affirme aussi une unité de jugement. Et il dit, comme le Père juge, c'est moi qui vais juger. Or, on sait que Dieu seul est juge. On comprend qu'ils ont changé de couleur. Hein. Et on comprend que ce qui va se passer dans leur cœur, parce que ce que Jésus dit là, soit on l'accepte, on l'entend et on réfléchit dessus, soit on le rejette. Et pour ces juifs-là, c'était inacceptable. Et à partir de là, va commencer dans leur cœur un projet qui va mettre du temps, mais qui va se réaliser, le projet de mettre à mort Jésus. Chaque fois que Jésus venait à Jérusalem, la pression montait, l'hostilité. On pense qu'on est à peu près 2 ans là, avant que Jésus soit mis à mort. Mais chaque fois que Jésus est à Jérusalem, il y aura des échanges comme ça qui seront tendus. Ils ne supporteront plus ces déclarations. Jean a sélectionné les miracles et surtout les échanges qui vont derrière. Et là, on voit l'hostilité qui monte. Autant beaucoup de personnes reçoivent et acceptent Jésus comme sauveur et voient leur vie changer. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui refusent d'entendre. Et puis Jésus poursuit dans cet échange et il reconnaît que ce qu'il dit, eh ben, faut qu'il y ait un témoignage. Et il donne plusieurs et il dit, il y a plusieurs qui rendent témoignage de moi. Il commence par parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète connu et reconnu, même si les chefs religieux ne l'avaient pas accepté, mais tous les gens du peuple avaient reconnu Jean-Baptiste comme un homme envoyé de Dieu. Jean-Baptiste avait un ministère pour préparer la venue de Jésus. Il prêchait la repentance. Il invitait les hommes à se remettre en cause. Et il bousculait. Il avait bousculé Israël comme un motoculteur qui retourne la terre. Il avait parlé de cette manière-là. Mais Jean-Baptiste avait aussi pointé vers Jésus. Et il avait parlé de Jésus comme celui qui viendra après lui et dont il n'est pas digne de délier les souliers. Il avait, quand il verra Jésus, il pointera vers lui, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus en disant que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus. Mais Jésus va donner un autre témoignage. Il y a autre chose qui rend témoignage de Jésus. Et Jésus va dire, les œuvres que je fais, elles rendent témoignage de qui je suis. Peut-être que quelqu'un a du mal à comprendre et saisir qui est Jésus. C'est absolument indispensable de comprendre qui est Jésus. Découvrir l'Évangile, c'est découvrir que Jésus est Sauveur. C'est découvrir qu'il est le Seigneur. C'est découvrir qu'il est Dieu fait homme. Et ses œuvres témoignent de lui. Jésus faisait des miracles, des guérisons extraordinaires et tout le monde était interpellé, disait, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nicodème est venu vers Jésus et interpellera Jésus en disant, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Effectivement, Jésus faisait des choses extraordinaires. Ce qui est important de comprendre sur les guérisons de Jésus, c'est que d'abord, Jésus a fait des miracles et des guérisons en très grand nombre. Des miracles qui n'avaient jamais été vus jusque-là, comme la multiplication du pain. Ça a été vu par un grand nombre. Certains miracles n'ont été vus que par les apôtres. Je pense quand Jésus a marché sur l'eau. Peu de gens l'ont vu. Mais certains ont été vus de tout le monde. Et ses œuvres, elles témoignaient de qui est Jésus. Jésus a fait un miracle qui a eu un effet retentissant. Il viendra après. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Et on sait que d'ailleurs ça va accélérer le processus de rejet de Jésus. Ici, Jésus a guéri un homme malade depuis 38 ans. Tout le monde le connaissait dans la ville. Et Jésus l'a guéri. Donc forcément, ce que faisait Jésus, c'était unique, incomparable dans ce sens-là. Ces miracles montraient que que Jésus était vraiment le Dieu fait homme. C'est pourquoi Jean a sélectionné des miracles dans ce but-là. Il a écrit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus le Christ ». Il a sélectionné quelques guérisons pour montrer qui est Jésus. Ce qui est unique aussi dans les miracles et les guérisons de Jésus, c'est que Jésus n'a jamais eu un échec. On ne trouve personne dans la Bible qui ait pu s'approcher et qui n'ait pas reçu. Tous ceux qui sont venus vers Jésus ont été guéris et secourus. Lorsqu'un prédicateur prêche l'Évangile, il va prier pour les malades. On rend grâce à Dieu lorsque Dieu manifeste sa grâce. Mais nous, on ne peut rien garantir. On ne maîtrise rien. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est que Jésus, non seulement il guérissait, mais il affirmait. Et mieux, il affirmait avant de faire le miracle. Parce que si on prie pour quelqu'un et que la personne est guérie, et que derrière je dis quelque chose, c'est une chose. Mais si je dis quelque chose avant et que je prie, la personne est guérie, c'est autre chose. Jésus, un jour, a eu un paralytique qui était devant lui. Et avant qu'il le guérisse, il dira, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Là, il y a eu un silence, un murmure. Alors, il a dit à cet homme, afin que vous puissiez savoir que j'ai le pouvoir. Il a dit à cet homme, je vais aussi le guérir. Il l'a guéri. C'était aussi pour montrer qu'il avait le pouvoir. Si Jésus a fait les choses dans l'autre sens, il l'avait guéri et dit, mais j'ai aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas la même force. Jésus disait les choses avant. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Jésus, quand il a su que Lazare était mort, il dira, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Quand Jésus est placé devant un homme aveugle de naissance, il dira, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut quand même le dire, ça. Et là, ça c'est unique du côté de Jésus. Hein, il ne s'agit pas quand la personne est guérie, là, malheureusement, des fois, des prédicateurs pourraient récupérer la guérison et s'en servir. Des fois, non. Là, c'est complètement différent. Jésus pouvait dire, je suis la lumière du monde, et il ouvrait les yeux d'un aveugle. Jésus pouvait dire, je suis le cep, et il changeait l'eau en vin. Jésus pouvait dire, je suis le pain de vie, et il multipliait les pains. Vous voyez, toutes ces affirmations, on peut chaque fois trouver un miracle. Ce que Jésus a fait, c'était unique. Et c'est important de dire ça, parce que nous savons que Satan est capable de faire des miracles. Savons qu'il y aura une période où Satan multipliera ses miracles, probablement quand l'Église sera enlevée. C'est important aussi de dire ça parce que les guérisons divines n'authentifient pas toujours la qualité de celui qui a prié. Hein, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais c'est sûr que les guérisons que Jésus opère, elles attestent que Christ est vivant, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est le Dieu de toute éternité. Moi, souvent, je dis, Seigneur, manifeste ta puissance pour montrer qui tu es. Hein, Jésus nous a donné ce mandat de prier pour les malades, de prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse, parce qu'elles attestent qu'ils confirment ce que Jésus a affirmé être. Et puis, Jésus parle aussi du témoignage du Père. Au verset 37, il parle du témoignage du Père et à deux reprises, on sait que Dieu le Père a fait entendre sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors il y a une fois où il n'y en a pas beaucoup qui l'ont entendu. C'est sur le mont de la transfiguration. Il n'y a que trois disciples qui ont pu l'entendre. Pierre, Jacques et Jean, si je ne me trompe pas, ils étaient là, sont les seuls auditeurs de cette voix-là. Plus Moïse et Élie qui ont fait une apparition. Mais il y a une autre fois où cette voix elle a été entendue déjà par plusieurs. Puisque c'est au moment du baptême de Jésus. Quand Jésus a accepté de prendre ce chemin-là, il y a une voix qui va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais là, il y a un témoignage public. Et Jésus fait peut-être référence à ce témoignage-là. Mais il leur dit aussi à ces religieux, mais il leur dit qu'ils n'ont jamais entendu la voix du Père. Et je crois que la voix du Père, quelque part, elle n'est pas audible. Ça évoque pour moi cette action de l'esprit dans le cœur. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous savez, à un moment donné, quand on vient à l'écoute de l'Évangile, il y a une voix qui vient atteindre notre cœur et qui nous dit c'est ça. Cette voix intérieure qu'on ne connaissait pas jusque-là, et qui vient trouver le chemin de notre cœur. Cette voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est ça qui va attester que Jésus est vivant. Vous savez, au départ, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'aurais voulu plein de preuves. Et quand j'ai entendu cette voix dans mon cœur qui disait « Tes péchés sont pardonnés », cette voix qui dit « Je suis vivant, je suis là, je suis celui qui peut changer ta vie », cette voix-là, quand on a commencé à l'entendre, tout le reste s'accomplit. C'est et là, ça témoigne que Christ est vivant. Et cette voix-là, vous avez besoin de l'entendre. Parce que autant le témoignage de Jean-Baptiste, de dire « Voilà, on ne l'aura plus », mais ce témoignage de l'Esprit, que vous puissiez l'entendre. Mais pour ça, il y a une disposition de cœur. Il dit « Vous ne voulez pas venir à moi ». Et celui qui est prêt, qui dit « Seigneur, si tu veux me parler, je suis là. Je suis prêt à entendre ta voix. Révèle-toi. » Alors Jésus se révèle. De toute façon, pour réaliser que Dieu, que Jésus, il est Dieu, il faut cette action de l'Esprit. Il faut ce témoignage intérieur de l'Esprit. Parce que c'est impossible. Il faut cette révélation. C'est impossible autrement. Jésus, ça passe pas. Mais il faut cette action de l'Esprit pour qu'on découvre que celui qui est venu comme un simple homme, c'est le Dieu de toute l'éternité. Et il est allé sur la croix. Et sur la croix, il a pris notre place. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Et puis il y a encore un autre témoignage. Jésus parle du témoignage de l'Écriture. Et il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors quand on lit le texte, il fait remonter à Moïse. Moïse était l'homme de la loi, celui qui symbolise la loi. Mais dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, à un moment donné, il avait annoncé qu'un autre prophète viendrait. Quelqu'un d'autre viendrait. Quelqu'un qui parlerait différemment. Quelqu'un qui répondrait aux besoins du peuple. Quelqu'un qui... Et bien sûr, quand on lit l'Écriture, on a beau chercher dans tous les sens, mais ça peut coller qu'avec Jésus. Et bien sûr, il annonce la personne de Jésus. Lorsqu'on lit la Bible, quand on commence à lire, on a l'impression que c'est des livres qui s'emboîtent pas tellement. Mais au fur et à mesure qu'on la lit, on va découvrir une personne, on va découvrir la réalité et la solution. On découvre que finalement la Bible, elle pointe vers Jésus. Elle nous montre Jésus. Elle nous fait, quand on lit l'Ancien Testament, elle fait ressentir le besoin de Jésus. Elle fait ressentir le besoin d'un Rédempteur. Et puis on attend qu'il vienne. Et on ressent ça. Quand on lit les prophètes, on voit qu'ils aspirent à la venue de quelqu'un. C'est dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que l'Esprit de Jésus était en eux. Et ils aspiraient à cette venue-là. Ils soupiraient après ça. Ouais. Quand on regarde la Bible, à un moment donné, il y a Jésus qui apparaît. Il faut découvrir Jésus. Il y a quelques temps, je disais ceci, je disais qu'à Washington, il y a la Constitution des États-Unis qui est écrite sur un mur, mais d'une certaine manière. Lorsqu'on regarde de près, il y a rien de... C'est un peu bizarre comme c'est écrit, les lignes sont un petit peu entremêlées. Mais dès qu'on recule, on voit le visage de la personne, de celui qui est l'auteur, qui a participé à cette Constitution des États-Unis, George Washington. Et c'est fait de manière, et ça fait pareil avec la parole de Dieu. Lorsqu'on plonge ses regards dedans, à un moment donné, celui qu'il faut découvrir, c'est Jésus. Et on va le découvrir. Si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous commencez à la lire avec ce désir de trouver Dieu, ça va pointer vers Jésus. Et à un moment donné, il va se révéler. Lorsque Jésus a retrouvé ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va leur enseigner dans les Écritures tout ce qu'il concernait. Il va leur expliquer là et dire, voilà, j'étais là, vous voyez, dans cette histoire-là. Ce bélier-là, ça parle de moi. Cette histoire-là, ça parle de moi. Ce Jourdain, ce fleuve qui descend. Mais ça m'évoque aussi, j'imagine, toute l'étude intéressante que Jésus a dû leur faire. Mais ça pointe vers Jésus. Jésus ne parle pas de preuves, il parle de témoignages. Les preuves, ça se voit. Le témoignage, ça se croit. Et Jésus veut... Il y a des choses qui doivent témoigner dans votre cœur que Jésus est Dieu, qu'il est le Sauveur. Retenez trois choses qui peuvent attester dans votre cœur que Jésus est le Sauveur et celui qui peut pardonner vos péchés. Il y a ce témoignage des œuvres de Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Un jour, un athée notoire a dit, mais qui pourra me prouver que Dieu existe? Et un homme qui s'est levé et qui dira, moi, avant, j'étais un buveur notoire, connu dans toute la ville. J'ai fait du mal à ma famille, à mes enfants. j'ai rencontré Jésus. Mon épouse, elle a retrouvé un mari. Mes enfants ont retrouvé un père. Je ne bois plus et je peux assumer. » Il s'est assis et il s'assied. La discussion était close. Et ça, c'est des œuvres de Dieu. Jésus est capable de transformer. S'il y a un cœur ouvert, Jésus fera une œuvre de grâce dans votre vie. Et ça, c'est irremplaçable. Lorsqu'on donne son cœur à Jésus et qu'on met en œuvre ce qu'il enclenche, là, la repentance se fait, il y a de l'ordre qui se fait et on vit de belles choses avec Jésus. Il y a souvent une guérison, il y a une délivrance quelque part, il y a une victoire sur un péché. Ça, c'est ce que Jésus fait. Ces œuvres-là, elles témoignent de qui est Jésus. Mais il y a aussi l'action intérieure du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu atteste dans nos cœurs que l'on peut devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste, nous révèle qui est Jésus. Il faut entendre cette voix intérieure. Le Saint-Esprit le frappe à la porte de votre cœur et il veut vous dépeindre Jésus. Il veut que vous découvriez au travers de celui qui paraît humain, si marqué par la faiblesse. Il veut vous découvrir le Dieu qui s'est fait homme, qui est Sauveur et Seigneur. Et puis, il y a le témoignage de la parole. Si vous lisez la Bible avec un cœur ouvert, vous découvrirez Jésus. Personne ne peut dire « j'ai cherché Jésus et je ne l'ai pas trouvé ». Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez parce qu'il se laissera trouver. Retenez cette parole qui respire la douleur chez Jésus. « Vous ne voulez pas venir à moi ». Il le dit à la fin, hein, si je reprends, « vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu ces témoignages, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Si vous avez ce désir de venir à Jésus pour avoir le pardon de vos péchés, pour recevoir la vie éternelle, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a des œuvres qui vont se faire. La parole de Dieu va se révéler. Mais permettez à Dieu d'atteindre votre cœur. Dieu veut se révéler, mais il le fera avec votre participation. Y a-t-il quelqu'un qui veut tourner ses yeux vers Jésus-Christ, qui veut recevoir le pardon de ses péchés, qui veut expérimenter la grâce? Il a besoin de réaliser que Jésus, c'est le Dieu fait homme, le Sauveur, le Seigneur. On va courber nos têtes et on va le prier maintenant.